Et les midis reprennent la route tout à l'heure à 13h. Nous reviendrons sur l'œuvre de Frédéric Weissmann, le documentariste, avec mes invités. Mais tout de suite, c'est le retour de Marie Sorbier pour le Point Culture.
Bonjour à tous. Se tient en ce moment à l'UNESCO une rencontre importante pour la survie de la langue française dans l'espace numérique. Et pour être précise, je devrais dire les langues françaises. En effet, à l'ère de l'IA, il est impératif de veiller à ce que le français, dans toute sa diversité, soit présent et utilisé. Et pour mener cette bataille culturelle, le ministre de la Culture du Québec est à Paris. Mathieu Lacombe, bonjour.
Bonjour Madame Sorbier.
Vous êtes ministre de la Culture et des Communications du Québec. Vous êtes à Paris pour intervenir à l'UNESCO afin d'actualiser la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. L'IA, bien sûr, hein, l'intelligence artificielle, sera au cœur de vos discussions. Comment faire, Monsieur le ministre, pour que le français ne soit pas englouti par l'anglais dans les sphères numériques ?
C'est une excellente question à laquelle on travaille déjà depuis plusieurs années. Pour ma part, ça fait 3 ans que je travaille sur cette question-là parce qu'on a déjà un outil. La Convention de 2005, à laquelle vous avez fait référence d'entrée de jeu, elle est déjà venue indiquer que la culture, c'est pas un bien comme les autres et que puisque c'est pas un bien comme les autres, les nations, les gouvernements, les États ont non seulement la responsabilité de la protéger, mais ils ont donc cet outil, la Convention de 2005, pour exclure la culture, par exemple, des accords commerciaux. Par contre, 2005, ça fait déjà un moment, donc ça fait plus de 20 ans maintenant, et la convention, elle est plus adaptée à l'univers numérique. Donc, on doit s'assurer que l'outil, il est actualisé, en quelque sorte, pour qu'on puisse maintenant aussi protéger cette culture-là dans l'univers numérique.
Ce qui est intéressant dans le titre de la convention, c'est le mot « diversité ». Est-ce qu'on peut dire que dans la francophonie, il y a une diversité de langues ?
Bien sûr, bien sûr. Vous le reconnaissez à mon accent en ce moment. Je le reconnais à vos produits qu'on consomme aussi chez nous. Il y a la francophonie où il y a les francophonies en Afrique, par exemple. Donc oui, il y a une grande diversité culturelle dans la francophonie elle-même, mais la diversité culturelle dans le monde, c'est beaucoup plus large que la francophonie. Vous savez, c'est quelque chose que je répète souvent, ce combat que je mène personnellement depuis 3 ans avec quelques alliés, c'est pas un combat pour le Québec, c'est pas un combat francophone non plus, c'est un combat pour la survie de toutes les cultures dans le monde, de toutes les cultures nationales. Et à ce titre-là, je pense que le travail qu'on fait, c'est important parce qu'on adopte tous des lois chez nous. L'Union européenne l'a fait avec une directive. Chez vous, en France, il y a aussi des obligations sur les grandes plateformes d'avoir du contenu de chez vous. Au Québec, je l'ai fait cet automne en adoptant aussi un projet de loi. Et maintenant, on a une loi québécoise pour favoriser les contenus francophones chez nous sur les grandes plateformes comme Netflix, Amazon Prime, par exemple. Mais ces lois-là, elles doivent tenir la route devant les tribunaux parce qu'elles sont contestées. Et on le voit un peu partout dans le monde. Donc, elles doivent tenir la route. Et pour ça, le travail qu'on fait à l'UNESCO sera utile. Parce que si on a ce bouclier juridique international, ben, les lois qu'on a adoptées chez nous vont pouvoir tenir la route.
Mais justement, quel type de mesures, peut-être contraignantes, la France et le Québec comptent-ils adopter contre les plateformes que vous citiez, contre ces géants du numérique qui, de fait, on le sait, contournent les principes de diversité culturelle ?
Exactement. Donc, en Europe, il y a déjà une obligation chez les pays membres de l'Union européenne d'avoir 30 % de contenu européen, par exemple, sur la plateforme quand vous êtes en Europe. Chez nous, au Québec, on a adopté ce projet de loi auquel je faisais référence quelques secondes plus tôt. Et ce projet de loi, on l'a axé davantage sur les produits francophones originaux. Donc, on a décidé de sortir de l'aspect québécois de la chose pour s'ouvrir, disons, à la francophonie mondiale en disant aux grandes plateformes, quand vous êtes chez nous au Québec, vous devez proposer un niveau minimum de contenu original francophone sur vos plateformes. Et ce contenu-là, j'ajoute, doit facilement être découvrable. Donc, ce concept de découvrabilité auquel on fait souvent référence, qu'est-ce que c'est la découvrabilité? Ben, c'est le fait de trouver quelque chose qu'on ne cherchait pas nécessairement activement. Donc, vous savez, quand vous entriez chez votre disquaire préféré il y a quelques années, parfois, vous ressortiez de là avec un disque que vous n'aviez pas l'intention d'acheter parce que vous l'avez trouvé, parce qu'il vous a été proposé. C'est la même chose dans une librairie. Et on veut recréer ça, donc, dans l'espace numérique chez nous au Québec, mais de plus en plus d'États dans le monde, notamment dans l'Union européenne, le font aussi.
Oui, justement, j'allais vous en parler. Les autres territoires francophones, vous avez mentionné l'Afrique, bien sûr, mais je peux penser à la Belgique, à la Suisse, mais même à des pays qu'on imagine moins. La francophonie est très large et très diverse, vous l'avez souligné. Mais comment on fait à l'UNESCO pour se mettre tous ensemble, pour s'allier, pour défendre le français, justement, dans l'ère numérique?
Je pense qu'on a un espace, la francophonie, où on a cette solidarité d'abord et avant tout. Faites bien de le souligner. On doit travailler ensemble. Et d'ailleurs, l'an dernier, j'ai convié les ministres de la Culture de la francophonie chez nous à Québec dans le cadre d'une conférence. C'était la 5e conférence des ministres de la Culture de la francophonie de l'OIF. Et à ce moment-là, on a pris quand même des engagements de travailler ensemble. Donc, je pense que ça envoie un bon signal quand on se retrouve dans un forum comme l'UNESCO, où là, tous les pays du monde se retrouvent et travaillent sur ces questions. Donc, si au départ, on a un bloc francophone, disons ça comme ça, qui est très fort et qui a le même objectif, eh bien, je pense que c'est plus facile ensuite de rallier les autres pays, parce que je le rappelle, c'est pas seulement un combat francophone, c'est un combat pour la survie de toutes les cultures nationales.
Donc vous êtes confiant, Monsieur le Ministre, là, dans ces jours où tout ça se discute à l'UNESCO, sur l'avenir du français dans l'IA, enfin, quand l'IA nous propose une réponse à nos questions, est-ce que vous êtes confiant sur le français qui va rester une langue importante, même dans cette sphère numérique dominée par l'anglais?
On n'a pas d'autre choix que d'être confiant. L'IA, c'est un immense chantier qui va beaucoup plus loin que ce dont je vous parlais à l'instant, mais auquel on doit quand même s'attarder, parce que ça va complètement transformer la façon qu'on a de travailler. Puis quand on parle de culture, nécessairement, ça aura aussi un grand impact. Mais oui, vous avez raison de le souligner. Et on dit souvent, on souhaite que l'intelligence artificielle soit aussi intelligente en français qu'en anglais. C'est un peu ça le défi, parce que évidemment, elle se nourrit de ce qui est présent sur Internet, et souvent c'est du contenu anglophone. Donc, elle est beaucoup plus appelée en ce moment à réfléchir en anglais plus efficacement, puis probablement aussi lorsqu'elle nous donne des réponses en français ou lorsqu'elle nous donne des informations en français, d'y aller d'une traduction en quelque sorte de code culturel anglophone, puis de les calquer au français, alors que c'est pas du tout ça. On a des cultures qui sont complètement différentes. Donc, il faut nourrir la bête d'une certaine façon avec des données francophones, des données qui reflètent nos cultures, pour que l'IA soit aussi intelligente en français qu'en anglais. Ça, c'est clair.
Une dernière question, Mathieu Lacombe. Est-ce que au Québec, le secteur culturel est aussi inquiet qu'en France face justement à l'IA et à tous les changements que l'intelligence artificielle peut provoquer dans nos métiers culturels?
Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a cette crainte, évidemment, que ce qui fait la singularité de la création humaine soit un peu effacé, ou en fait beaucoup effacé par l'intelligence artificielle, c'est clair. On l'a vu avec le doublage, par exemple. On le voit beaucoup dans l'industrie musicale. Également, je parlais avec les gens de chez Deezer, chez vous, qui m'expliquaient à quel point c'est un fléau maintenant, la création musicale qui est générée complètement par l'intelligence artificielle. On peut penser au Brésil aussi, où ça a été, où c'est toujours un grand problème. C'est la même chose un peu partout dans le monde. Donc oui, chez nous au Québec, l'inquiétude, elle est très grande et je la comprends. Donc on voit que chez vous, il y a déjà beaucoup de travail qui se fait pour légiférer en cette matière-là. Donc c'est quelque chose aussi qu'on suit attentivement.
Bien, merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe. Merci.
C'est un plaisir. Au revoir.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, demain débute le festival Effraction à la Gaîté Lyrique à Paris.
Oui, dédié à la littérature contemporaine, ce festival qui se déroule durant 5 jours propose des rencontres avec une quarantaine d'auteurs et d'autrices, l'occasion d'explorer les liens entre réel et fiction et d'interroger leur rapport à l'actualité et la manière dont elles nourrissent leur œuvre sont ainsi attendues, entre autres pour cette 7e édition, Natacha Apana, Constance Debray, Laurent Mauvignier ou encore Marie-Hélène Lafont. Et bien sûr, vous retrouverez tout le programme sur la page du Point Culture.
Merci Marie, on se retrouve demain.
À demain.
Pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.